matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, je vous souhaite la bienvenue sur Europe 1. 4h57, le 5-7 démarre en direct. On va essayer de vous réchauffer ce matin parce qu'il fait vraiment très très froid. Omblin Roche-Paul Lassen, bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous êtes bien réchauffé?
Réchauffé,
pas évident. Hein. Oh là là. Bon, attention, ça glisse. Ça glisse dehors. La neige a laissé place au verglas un peu partout, y compris sur les trottoirs. Hein. Soyez prudents. Il y a encore 6 départements en alerte le long des frontières de l'Est. L'Alsace, le Doubs, la Haute-Saône, les Vosges, température extrêmement froide. Je le disais, Laurent Cabrol, bien sûr, va nous rejoindre dans quelques secondes. À la une ce matin, il y a aussi cette petite note d'espoir.
Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe. Et nous aurions tort de ne pas tout mettre en œuvre pour y parvenir.
Voilà, un petit chemin, un sentier. Un sentier étroit.
Sentier forestier.
Pour éviter peut-être pour éviter un reconfinement. C'est bien la première fois qu'on nous dit ça. On garde quand même le cap sur les gestes barrières. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on est très loin d'être aussi optimiste en Allemagne. On y sera à 5h30. Restrictions extrêmement strictes, prolongées alors même que les chiffres sont bien meilleurs qu'en France. On sera sur place. Paul, qu'est-ce que vous avez repéré?
Alors moi, ce matin, je vous propose de discuter avec Elon Musk, Oprah Winfrey ou Mark Zuckerberg.
D'accord.
Rien que ça.
Ok, très bien.
Voilà, toute simplicité.
Tout ça
on
grâce
va préparer deux, trois questions.
À un nouveau réseau social qui cartonne aux États-Unis, qui fonctionne très bien en Chine et qui commence à arriver en France. Ça s'appelle Clubhouse. Je vous raconte ce que c'est dans 45 minutes.
À tout à l'heure. Omblin, la partition du jour.
Il a toujours su très bien s'entourer des meilleurs paroliers. Julien Clerc compose ses mélodies et ceux qui écrivent pour lui, comme Jean-Loup Dabadi, s'inspire de ses amours pour lui offrir certaines de ses plus grandes chansons.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.
Bon voilà, c'est un monument ce matin.
Voilà.
Magnifique chanson française. Julien Clerc qui revient avec un nouvel album.
Oui.
C'est l'occasion de revenir un petit peu en arrière avec vous. Omblin Roche, à tout à l'heure à 6h25.
Merci.
Mes invités ce matin et du positif en cette semaine où Europe 1 se mobilise pour les jeunes et notamment pour l'emploi. Des offres, 3000 nouveaux CDI annoncés chez Amazon, le géant de la vente en ligne qui a vu ses chiffres exploser à la faveur des confinements. Le président d'Amazon Logistique, Ronan Bollé, a choisi Europe 1 pour venir détailler les profils recherchés. Il sera là dans ce studio à 6h40. D'ici là, on va s'arrêter sur cette menace qui semble planer sur les hôpitaux et ce virus-là est informatique. Les cyberattaques se multiplient. L'hôpital de Dax a été visé hier. Est-on bien protégé? Je poserai la question à 5h40 à mon invité. Et puis, mon invité inattendu, tout à l'heure, à 6h15, viendra nous parler de la situation dans les stations de ski. Elle qui est ambassadrice de la Plagne. Et c'est aussi une collègue, puisqu'elle, vous l'entendez sur la petite sœur d'Europe 1, RFM. Voilà pour le programme. Bonjour Laurent Cabrol, c'est à vous.
Eh bien bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dites-moi, c'est un vrai froid sibérien qui nous accueille aujourd'hui. Moins 13 dans l'Est à l'heure où nous parlons, sous abri. Moins 10 en banlieue parisienne. Cela veut dire qu'en ressenti, en plein vent, dans l'Est, on n'est pas loin des moins 20 degrés. Hein, et moins 14, moins 15 en banlieue parisienne. Donc toutes les températures sont actuellement sous des valeurs qui sont, se situent entre moins 15 et plus 7 degrés. Vous voyez que l'amplitude est énorme. Dans la journée, nous aurons un temps relativement dégagé. Nous verrons que la pluie va quand même arriver par les régions atlantiques. Nous en parlons tout à l'heure.
À tout à l'heure, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue en Sibérie, on va essayer de vous réchauffer tout de suite votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h sur Europe 1.
C'est un peu casse-gueule. Ah ouais, je suis tombé à cause d'une passante qui a pas regardé en traversant. Un peu l'impression d'être sur une piste de ski, c'est un peu le ski par défaut. Voilà, c'est piste rouge presque noire.
Attention à la glissade, la neige, le verglas rendent les moindres petits déplacements parfois acrobatiques. Ils arrivent et ça commence aujourd'hui. Les premiers tests de dépistage par la salive doivent être lancés dans les hôpitaux parisiens. Et puis Sciences Po ou Sciences Sport, les témoignages de violences sexuelles au sein des instituts d'études politiques dans plusieurs villes se multiplient sur les réseaux sociaux.
Le journal des sports à suivre, notre pressing du matin et puis pour les doigts dans l'assiette, nous serons au Pays Basque ce matin chez notre fromager. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Que voulez-vous ? On est en février, il fait un froid glacial, nous disait Laurent Cabrol à l'instant. Il y a eu les chutes de neige d'il y a 24 heures et des températures négatives toute la journée. Résultat, dans les villes, les trottoirs et la chaussée deviennent une zone d'aventure. C'est quasiment du sport extrême. Pierre Arbulot.
slalomer entre les plaques de verglas et les petits tas de neige.
Excusez-moi, je reprends mon souffle.
Le vélo par température négative, c'est un sport extrême pour Julien.
Peut être parfois déstabilisé et tout, même vis-à-vis de la neige. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste faisable.
Une discipline très technique qui demande quelques connaissances.
Il y a une petite astuce, il suffit de dégonfler un peu les pneus. Et dans ce cas-là, on n'a plus d'adhérence.
On y va tranquillement, et puis... Et puis si on sent que c'est trop dangereux, on descend piéton, quoi.
Ce genre de conseil façon moniteur au blouson rouge, Étienne, le flanc droit recouvert de neige, en aurait bien eu besoin.
Ah, c'est un peu casse-gueule. Ah, mais je suis tombé à cause d'une passante qui a pas regardé en traversant. Un peu la pression d'être sur une piste de ski, c'est un peu le ski par défaut. Voilà, c'est piste rouge presque noire ce matin. Faut être courageux, mais c'est quand même magnifique après.
Oui, entre le givre qui fait scintiller la route et la petite couche blanche à côté.
C'est joli, mais très froid. Oui. J'aurais préféré rester à la maison.
Je suis pas sûr de retourner en vélo, ouais. Piéton ou transport en commun.
Le jeu n'en vaut finalement pas la chandelle, puisque ce n'est pas une soirée raclette, mais bien une journée de travail qui les attend en bas des pistes cyclables.
Pierre Herbulot dans les rues de Paris.
Oui, c'est joli, mais c'est plus joli quand on regarde à travers la fenêtre. Autre titre ce matin, si vous êtes réticent à l'idée de subir un test Covid dans le nez, un début d'espoir pour vous, les tests salivaires vont être déployés à partir d'aujourd'hui.
C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors on va voir tous les détails avec Mathieu Charrier.
La Haute Autorité de Santé va donner ses recommandations concernant l'utilisation de ces tests salivaires ce matin. Mais sans attendre la publication de ces détails, notamment sur quels modèles seront homologués, les premiers tests seront déployés aujourd'hui dans certains hôpitaux parisiens, a expliqué Olivier Véran, tout en précisant que le public prioritaire reste les enfants dans les écoles. Objectif, identifier rapidement les cas positifs pour préserver justement ces écoles dont nous souhaitons, précise Olivier Véran, qu'elles puissent rester ouvertes le plus longtemps possible. Selon nos informations, les élèves de collège et lycée devraient aussi rapidement pouvoir en bénéficier. Ces tests, comme leur nom l'indique, se font donc avec un simple prélèvement de salive. Il n'est plus nécessaire d'insérer un écouvillon au fond du nez. Le prélèvement est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse. Pas question pour le moment de recourir aux autotests salivaires, dont les résultats sont quasi immédiats, mais jugés beaucoup trop aléatoires. Objectif d'ici mi-février, réaliser entre 200 et 300 000 tests salivaires chaque semaine.
L'épidémie qui semble stable en France, mais avec tout de même en ce moment trois fois plus de contaminations qu'en Allemagne, qui est confinée et où le confinement est d'ailleurs prolongé.
Oui, au moins quatre semaines de plus, annonce Angela Merkel. Seuls les coiffeurs allemands vont pouvoir rouvrir le 1er mars. Autre épidémie, alors là, bien plus traditionnelle et tout à fait de saison, la gastro-entérite. Ça peut surprendre, hein, puisqu'on a par exemple arrêté de se serrer la main depuis presque un an. Mais les chiffres sont clairs, Anne Le Gall, les virus saisonniers réapparaissent depuis le début de l'année.
Oui, les chiffres du réseau Sentinel montrent une légère hausse des cas de gastro-entérite depuis mi-janvier, notamment dans le Grand Est, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et la région PACA. Il y a aussi une légère augmentation des virus respiratoires et des rhumes. Nous restons bien en dessous des chiffres habituels de saison, mais cette légère augmentation d'activité, le docteur Jacques Battistoni, président de MG France, la constate aussi dans son cabinet du Calvados et il ne l'attribue pas à un relâchement des gestes barrières.
Peut-être que c'est la période plus hivernale, plus froide qu'on a aujourd'hui, qui fait qu'on a un petit peu plus d'infections saisonnières. De toute façon, dans un hiver habituel, il y a des moments calmes et des moments plus importants. Donc je pense qu'on a moins de cas de façon générale, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des petites variations saisonnières.
Effet très étonnant, la grippe reste absente des consultations cette année. Une situation totalement inhabituelle, car sur les cinq dernières années, la période actuelle correspondait à un pic épidémique. Alors, durant les vacances, pas question de relâcher l'attention sur le masque, le lavage des mains et l'aération. Ces gestes valent contre le coronavirus, mais aussi contre la grippe. Car pour cette dernière, la menace n'est pas encore totalement écartée. On a vu certaines années des épidémies de grippe démarrer en mars.
Anne Le Gall.
5h06 sur Europe 1. Le mouvement de libération de la parole sur les violences sexuelles est décidément une tendance de fond. Tendance très lente aussi. Il y a eu Balance ton porc. C'était il y a eu plus de 3 ans déjà. On a aussi parlé du mot-clé MeToo inceste ces derniers jours. Et maintenant, des révélations se succèdent dans les instituts d'études politiques.
Oui, les Sciences Po, que ce soit à Paris ou dans les autres grandes villes, avec ce nouveau mot-clé, Sciences Porc. À Strasbourg, la direction de l'école a transmis un signalement au parquet pour une suspicion de viol, mais cela après des années d'omerta, selon les étudiants. Arthur Mbaché.
Une étudiante qui accuse un étudiant de viol et la lâcheté de la direction. Voilà résumé par Louise en troisième année, ce qui a secoué Sciences Po Strasbourg l'année dernière. Elle se souvient d'une administration qui ne veut pas se mouiller et qui, dit-elle, confie courageusement aux associations d'étudiants le soin d'ostraciser l'élève accusé de viol.
Lors de cette réunion, on devait décider des mesures qu'on devait prendre vis-à-vis de cet étudiant. On est complètement sorti de notre rôle. On est juste des étudiants parmi tant d'autres et on va prendre des décisions qui sont lourdes de conséquences pour le présumé coupable. L'administration a exprimé plusieurs fois qu'ils étaient allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire et qu'aujourd'hui, c'était à nous d'agir. Et ils auraient pu également, pourquoi pas, en parler au procureur de la République. Ce risque-là, ils n'ont pas pris parce que c'est une question de réputation.
La poussière sous le tapis ?
Oui, complètement. Mais de la poussière sous le tapis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, il y en a tellement qu'on ne peut plus la cacher. On ne fait que nous dire qu'on arrive à Sciences Po, vous êtes l'élite de la nation, mais quelle élite ? Quelle élite.
En ce début d'année, une affaire similaire, accusation de viol, secoue à nouveau Sciences Po Strasbourg. La nouvelle direction a cette fois décidé de transmettre un signalement au parquet. C'est bien, nous dit Louise, j'espère que ça va enfin changer. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
On parlait aussi des témoignages d'inceste. Le gouvernement a annoncé cette semaine vouloir instaurer la prescription glissante pour que toutes les victimes d'un même auteur puissent avoir droit à un procès. Le délai de prescription ne débuterait en fait qu'à la date des faits commis sur la dernière victime.
Mais cette proposition est intenable selon Céline Parizeau, la présidente de l'Union syndicale des magistrats.
C'est tout à fait légitime que les victimes souhaitent se faire entendre, même des années après. Néanmoins, on sait que le parcours judiciaire des victimes est suffisamment difficile. C'est peut-être inutile de les leurrer sur le fait qu'on va pouvoir encore réactiver des prescriptions acquises, c'est-à-dire pour des faits qui auront plus de 30, 40 ans, voire presque 50. Ça n'a pas de sens juridiquement, donc c'est pas possible d'aboutir à partir du moment où c'est inconstitutionnel. Ils peuvent toujours l'inscrire dans la loi, ça n'ira pas plus loin qu'une déclaration de principe. Qu'on se batte pour les victimes, oui, bien sûr. Qu'on se batte pour que la parole se libère, qu'on se batte pour que des moyens soient donnés aux enquêteurs et à la justice pour enquêter sur ces affaires, évidemment, mais qu'on arrête de vendre du rêve aux victimes.
Céline Parizeau, jointe par Marion Dubreuil pour Europe 1.
La neige et le froid sont donc à la une, mais c'est un autre danger qui guette les œuvres du Louvre, les inondations.
Oui, les réserves du musée le plus célèbre du monde se trouvent en zone inondable en cas de très grande crue de la Seine. Le Louvre est en train de mettre à l'abri des milliers de pièces dans un centre de conservation à Liévin, c'est dans le Pas-de-Calais, où s'est rendue Diane Chénouda.
En un an et au rythme de 4 semi-remorques par semaine, 100 000 œuvres stockées dans les sous-sols inondables du Louvre ont pu être acheminées jusqu'au centre ultramoderne des réserves de Liévin. Brice Mathieu, le directeur du centre.
L'immense majorité de nos très grands formats et des œuvres qu'on n'aurait pas pu remonter, quoi qu'il arrive, il y a quelques années, sont aujourd'hui en sécurité.
C'est le cas par exemple de ces 2000 sculptures romaines, désormais à l'abri dans cette immense réserve de 2000 m². Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre, est soulagé.
Ça a été vraiment une urgence parce que vous voyez que ces sculptures, le marbre c'est très simple, c'est 2,5 tonnes au mètre cube, vous ne pouvez pas les déplacer comme ça. Donc là, ça a été une des priorités de sauver cette collection et de la porter ici.
Les œuvres sont bichonnées, restaurées s'il le faut et rangées chacune à leur place, comme ces 2000 figurines en terre cuite dont s'occupe Isabelle Asselin, conservatrice au département des antiquités grecques et romaines.
Le fait de les avoir préservées ici dans le centre, effectivement, fait que nous ne sommes plus inquiets par rapport à cette eau de la Seine que nous voyons de nos bureaux monter de plus en plus en ce moment. C'est vrai que c'est un soulagement.
Il reste encore 20% des collections en zone inondable à Paris, 20 000 objets, mais ceux-là pourront facilement être remontés aux étages en cas de crue.
Reportage de Diane Chénouda.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 5h10.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une de votre journal des sports, le retour de douloureux souvenirs.
2018-2019, les fans du Paris Saint-Germain se souviennent que leur footballeur star Neymar avait manqué pour blessure 3 rencontres décisives de Ligue des Champions en 8e de finale. Crainte ravivée ce matin parce qu'hier soir à Caen en Coupe de France, le Brésilien a quitté le terrain en cours de match boitillant. Il pourrait être touché aux adducteurs. Inquiétude quant à sa participation mardi prochain au 8e de finale aller de Grande Coupe d'Europe à Barcelone. Malgré cette échéance proche et le froid tranchant, hier soir, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a fait jouer Neymar dès le début du match. Hier, il était même capitaine. L'Argentin justifie son choix.
Non, aujourd'hui en France, quand on joue à Saint.
Par rapport au terrain, le terrain aujourd'hui, il était en condition. En France, dans cette période de l'année, on a joué dans d'autres terrains aussi qui étaient difficiles. Mais aujourd'hui, il était parfaitement apte pour jouer.
perfectes conditions pour jouer.
Et Neymar doit passer des examens médicaux dans la journée. Ce match à Caen, le PSG l'a gagné 1-0.
Paris donc qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France, tout comme Marseille.
Le rebond phocéen à Auxerre, club de Ligue 2, succès 2-0. Enfin une victoire, la première depuis 7 matchs côté provençal. Un succès qui doit en appeler d'autres, clame l'entraîneur Nasser Larguet.
On ne peut sortir, on ne peut être dans le calme que si on est capable de faire des séries. Parce que là, c'est une victoire ponctuelle, je dirais, qui, en principe, doit nous donner un peu plus de confiance dans la construction des prochaines victoires.
Des propos recueillis par Jean-François Pérez. Crise toujours aussi vive à Nantes, où l'incroyable s'est produit. L'entraîneur Raymond Domenech limogé après seulement 46 jours en poste, 7 matchs de Ligue 1, aucune victoire. Et la nouvelle est tombée alors que l'équipe était en train de jouer en Coupe de France, se faisant éliminer 4-2 à domicile par Lens. Raymond Domenech va être remplacé par Antoine Comboiré, ancien joueur du club. Par ailleurs, qualification de Lille, Monaco, Nice, Montpellier, Brest et Metz, mais aussi de Toulouse, Ligue 2, victoire à Bordeaux 2-0.
On en vient au tennis. Et où va s'arrêter la Bérésina française à Melbourne?
Plus que 3 tricolores en lice et on n'en est qu'au 3e tour de l'Open d'Australie, premier grand chelem de l'année. Adrian Manarino, dernier escapé messieurs et côté dames. Fiona Ferro qui joue demain et Kristina Mladenovic qui affronte aujourd'hui la japonaise Ibino, 76e mondiale, pour une place au 3e tour.
Et puis cette question, les mondiaux de ski alpin en Italie vont-ils enfin débuter?
Toutes les épreuves sont reportées depuis lundi en raison à chaque fois du mauvais temps, mais aujourd'hui deux descentes au programme, le Super G dames 10h45, le Super G homme à partir de 13h, alors on attend la prestation notamment d'Alexis Pinturault côté français, mais aussi de Johan Claret, 40 ans, vice-champion du monde de Super G il y a 2 ans. Aujourd'hui, dit-il, c'est sa course de l'année.
Et il ne faut pas la prendre comme une course que les autres, c'est forcément un grand rendez-vous. Et il faut l'aborder comme un grand rendez-vous. Et moi, je l'aborde comme un grand rendez-vous. Et j'espère justement que ça va m'aider en Super G à passer un cap et à prendre les risques que j'ai besoin de prendre pour être performant. Donc, non, je l'aborde comme la course de l'année, comme un jour différent. Et ça me donne de l'énergie supplémentaire, justement.
Et aux mondiaux de biathlon en Slovénie, hier, déception des Bleus, seulement 5e du relais mixte. Médaille peut-être demain avec le sprint, messieurs.
Merci Jérôme Lacroix, à tout à l'heure. Et c'est l'heure de retrouver le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Et mon pari gagnant sera le 701 Gently de Muse. Irrésistible le 10 janvier sur cette piste où il s'est imposé à la manière d'effort. Quasiment de bout en bout, ce trotteur dur et tenace qui aime aller de l'avant mérite d'être suivi en toute confiance. Toujours aussi bien le matin et idéalement engagé, il devrait pouvoir sur sa lancée une nouvelle fois s'imposer. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 1, Gently de Muse.
Merci à vous Thierry Léger et à tout à l'heure pour le Quintet.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. 5h15 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez au réveil. Nous allons ouvrir les journaux ensemble avec toute l'équipe du 5-7. Omblin, qu'est-ce que vous avez repéré?
Est-ce que vous achetez au supermarché certains produits d'épicerie en vrac, du riz, des pâtes, toutes sortes de noix? Eh bien, d'ici 2030, les commerces de plus de 400 mètres carrés vont devoir consacrer 20% de leur surface à ce mode de distribution.
Moi, je prends des amendes pour les boulotter toute la nuit. Là.
Oui, voilà,
vous savez tout.
Ça marche bien.
Et puis, on s'arrêtera sur les victimes collatérales de la fermeture des restaurants. Elles sont nombreuses. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h17 sur Europe 1. Un coup de fil cette nuit entre Joe Biden et Xi Jinping, le premier depuis l'investiture du nouveau président américain. Il a notamment dit son inquiétude sur le sort des Ouïghours. L'événement politique du jour, c'est un débat entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Marine Le Pen ce soir sur France 2 à 14 mois de la présidentielle. Emmanuel Macron sera lui à Nantes aujourd'hui, déplacement sur le thème de l'égalité des chances. 1000 nouvelles places réservées à des élèves d'origine modeste vont être créées dans les classes préparatoires aux grandes écoles de l'administration.
Europe 1.
C'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Paul Lassen. On commence par un coup d'œil à vos unes de journaux et une sorte de cri du cœur à la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Bravo! Bravo les Français. Et ce n'est pas ironique, vous avez entendu le porte-parole du gouvernement. On pourrait peut-être échapper à un reconfinement. Et cela, selon le journal, c'est d'abord grâce à nous qui, en grande majorité, faisons preuve de civisme pour freiner l'épidémie. Mais la situation reste fragile. Grande inquiétude sur l'école, pointe la dépêche du Midi. Inquiétude aussi sur les cas de variants qui explosent dans l'Est. C'est à la une de l'Union et de l'Ardennais. Et puis à Marseille, c'est toujours la galère sur la vaccination. C'est le titre ce matin de La Provence. Vous verrez beaucoup d'images évidemment de neige et de froid dans vos journaux. Sciences Po, dans la tourmente, c'est à lire dans Libération. Et puis on va retenir un visage ce matin, celui de notre doyenne à la une de Midi Libre, Sœur Andrée, 117 ans aujourd'hui, vice-doyenne de l'humanité. Je ne sais pas si elle le prend comme un miracle, mais elle a survécu, elle a vaincu le Covid ces derniers mois. Elle va pouvoir déguster aujourd'hui une omelette norvégienne, son dessert préféré, dans les pâtes de Toulon où elle réside. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, on commence avec vous et donc le vrac qui arrive en grande distribution.
Oui, 20% de la surface de vente des enseignes alimentaires de plus de 400 mètres carrés consacrés au vrac. C'est ce que prévoit le projet de loi Climat et Résilience et on en parle dans Aujourd'hui en France, le Parisien. Alors pour vous donner une idée, aujourd'hui le vrac représente entre 2 et 8 mètres carrés pour un supermarché. C'est un petit peu plus pour un hypermarché. Ce mode de distribution se développe en France, hein, même si la croissance a été un petit peu ralentie à cause de la crise sanitaire. Vous savez, les espaces étaient fermés pendant le premier confinement, dans une grande partie des magasins. Le marché pèse quand même aujourd'hui 1,3 milliard d'euros. Il devrait tripler l'an prochain, c'est dire s'il a le vent en poupe, ce vrac. De plus en plus de commerces s'équipent, car c'est écologique quand on prend des pâtes, quand on prend du riz, on élimine l'emballage. Ouais. C'est économique aussi dans le bio, les produits sont souvent moins chers que leur équivalent emballé. Alors quand on parle vrac, voilà, on pense au riz, aux noix, aux pâtes, des produits de plus en plus plébiscités, mais on retrouve aussi des détergents, des lessives, des shampoings, voire du vin, de la vodka. Au-delà, et puis alors on va...
Il faut venir avec sa bouteille et on remplit cette bouteille de vodka. Bon.
Alors de là, où est-ce qu'on peut trouver ça plus pour le vin que la vodka. Mais...
Le vin, alors il me semble qu'on y vient, mais je crois que c'est Franprix qui fait ça.
D'accord.
Puisque Franprix est en avance. La dame va le dire. Alors, de là arriver...
Je ne coupe pas la dame.
De là arriver au fameux 20%, hein, puisque même si certains sont en avance plus que d'autres en tout cas, c'est un petit peu compliqué. Alors, on peut étendre le principe même du vrac, tout ce qui est vendu finalement sans emballage, des fruits, des légumes, de la fromagerie à la coupe, si vous venez avec vos propres contenants. Dans ce cas-là, cet objectif de 20% est réaliste, car la rentabilité d'un espace vrac pose vraiment question. Son entretien, notamment son nettoyage, il faut remplir. C'est pas évident, c'est pas comme mettre dans des paquets dans le rayonnage.
Des produits en boîte, oui.
Exactement. Le premier de la classe, Franprix, en avance donc. Auchan, en revanche, est plutôt en retard. L'autre défi désormais est d'éduquer le consommateur, car si on n'achète pas les produits en vrac, eh ben, ça va pas servir à grand chose d'augmenter sa surface.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était plutôt des magasins spécialisés, les magasins bio les magasins notamment, bio, ouais. qui ont lancé cette tendance. Pourquoi pas la mettre effectivement
partout.
Y a plein de choses dont on n'a pas besoin d'acheter tout le plastique qu'il y a autour.
Exactement.
Et on peut aussi venir avec ses propres boîtes.
C'est ça, les
pour remplir.
Bah, ouais. Ses propres bidons, pour remplir même les bidons de lessive.
Y compris pour la lessive. Voilà.
C'est dans Aujourd'hui en France.
Et la vodka.
On écoute le monde changer, y compris la vodka. En vrai qu'on a bien reçu. Alors, on va continuer à parler d'alimentation. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur Top Chef hier soir à la télévision, mais ça donne quand même envie de retrouver l'ambiance des restaurants. Les restos fermés depuis le mois d'octobre. Maintenant, on parle souvent des patrons, des chefs qui souffrent. On évoque moins souvent ceux qui sont derrière la réaction en chaîne. Le Figaro s'arrête ce matin sur les victimes collatérales de la fermeture des 200 000 restos et cafés en France. C'est tout un écosystème avec notamment au bout de la chaîne les agriculteurs, bien sûr les producteurs. On leur donne tous les jours la parole dans les doigts dans l'assiette sur Europe 1. Mais il y a aussi les industriels de l'agroalimentaire. Le journal donne des exemples. Producteurs de fromage AOP, viticulteurs, les brasseurs par exemple, ont perdu 30 à 50% de leurs débouchés. Les pêcheurs de barres, de dorades qui écoulent 40% de leur production grâce au resto souffrent énormément. À Rungis, certains grossistes dévissent et sont à moins 60%. Et puis il y a les géants aussi qui le payent cher. Heineken, on parlait de la bière, Heineken a perdu 200 millions d'euros avec la fermeture des bars et va supprimer 10% de ses effectifs, 8000 postes dans le monde. McCain, les frites industrielles, géant des frites, a perdu 20% de son activité en France avec la fermeture des restos et fait tourner ses usines en équipe réduite. Moins 20% aussi chez le spécialiste du café. Vous savez qu'on prend au comptoir, c'est gaffe réduit.
Voilà. Oh,
moins 20%. Et puis, il faut ajouter les entreprises de transport spécialisées dans les produits frais, transport frigorifique, gros coup de frein. Le transport qui doit recourir souvent encore au chômage partiel. Voilà, il ne faut pas oublier tous ces acteurs qui n'ont d'ailleurs aucune perspective de reprise, hein, aucune date de réouverture pour les restos. Il y a une rumeur qui a circulé sur Pâques, début avril, pour une réouverture potentielle, rumeur démentie par le gouvernement qui ne veut pas s'avancer. On le comprend parce que rien ne peut être sûr. On comprend en tout cas que ce ne sera probablement pas avant le début du mois d'avril. On retournera prendre un petit café au comptoir après la matinale. Paul, on termine avec vous.
Oui, pour tous les amoureux qui nous écoutent ce matin, un petit rappel pour éviter la crise de couple ce week-end. Notez bien que dimanche, c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Et ce matin, c'est une initiative pour les célibataires racontée par Ouest France que je voulais vous présenter. Alors, on le sait pour certains, célibataires, ce jour rime avec déprime. Le célibat pouvait être un peu lourd entre les fleurs, le chocolat et toutes les pubs pour la fête. Et là, en plus, en ce moment, vous venez de le dire, Sébastien, c'est impossible de trouver son âme sœur dans un bar, dans un café, dans un restaurant. Eh bien, figurez-vous que Karine Lopez a pensé à eux. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle a imaginé des speed dating dans l'un des seuls endroits encore ouverts, les supermarchés. Alors, Karine Lopez, elle est coiffeuse en Seine-et-Marne. Avec de la vodka, voilà.
Voilà.
Alors, elle est coiffeuse en Seine-et-Marne dans un centre commercial. Et c'est donc de là que lui vient l'idée de faire se rencontrer tous les célibataires qui veulent trouver l'amour dans un supermarché. Donc, alors, comment vont se passer ces rencontres entre l'étal de poisson et la fromagerie ? On a peu de détails pour l'instant. Karine est plutôt secrète sur la manière précise dont vont se dérouler toutes ces entrevues. Mais elle précise avoir conçu des cabas spécifiques pour que les participants puissent se reconnaître, évidemment, des sacs à l'effigie de son salon de coiffure. Alors, ces rencarts, ils auront lieu samedi ou dimanche. Donc samedi 13 ou dimanche 14, le jour de la Saint-Valentin, dans une grande surface en Seine-et-Marne. Plus d'une cinquantaine de personnes sont déjà inscrites, mais les inscriptions sont toujours ouvertes. Pour ça, rendez-vous sur la page Facebook de son salon. Vous tapez Karine Lopez, salon de coiffure, vous trouverez tout. Vous déboursez 5 euros.
Et après, c'est payant.
C'est payant. C'est une inscription. Mais après, c'est à vous de jouer. C'est à vous de séduire la personne en face que vous trouverez séduisante ou séduisante.
Tous ces gens vont se retrouver avec leur sac à l'effigie de ce salon de coiffure et vont se reconnaître dans le supermarché.
C'est
bonjour,
l'idée.
On se connaît. Bonjour.
Et Karine...
C'est plus la rose rouge sur la table. Hein, désormais, c'est le sac de salon de coiffure.
Dans un supermarché.
Dans un supermarché.
Il faut savoir que Karine... C'est une agence matrimoniale à elle seule. Ah. Depuis 5 ans, à l'occasion des dernières Saint-Valentin, elle se targue d'avoir formé 80 couples. Une agence matrimoniale quand même un peu tirée par les cheveux.
Voilà, elle est pas
magnifique.
Voilà,
il y a rien à rajouter.
Il y a rien à rajouter.
Je sais pas si c'est le plus beau cadre pour un rendez-vous amoureux, un supermarché, mais au moins il y fait chaud. Sauf qu'en ce moment, la balade, bon.
Ouais, dans le parc, c'est moyen.
Merci à tous les deux. C'était le pressing du jour, 5h25.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes au Pays Basque ce matin pour les doigts dans l'assiette à Saint-Jean-de-Luz, plus précisément chez notre fromager. Bonjour, Bagnat Moiti.
Bonjour, Sébastien.
Bon, vous allez bien, vous êtes un peu plus chaud que nous, je crois. Vous êtes loin de la neige et du verglas chez vous.
Exactement. Après, ici, il y a beaucoup d'humidité quand même.
Ouais, vous avez pris la pluie. Bon, on aime avec vous découvrir les produits à chaque fois qu'on vous retrouve dans les doigts, dans l'assiette. Qu'est-ce que vous avez de beau en ce moment, de beau et de bon en vitrine ?
Là, on est en pleine saison des fromages de brebis. Donc, je vais vous parler de Virginie qui élève 400 brebis basco-béarnaises avec ses parents Jean-Louis et Françoise.
Ouais.
C'est un fromage en forme de brique. Une pâte molle à croûte fleurie, comme un camembert.
D'accord.
On est plutôt dans un esprit de brie, plutôt qu'un camembert. C'est quelque chose d'assez doux, de très crémeux sous croûte. Et c'est... en arrière-bouche, on a vraiment un goût de fromage de brebis qui arrive. C'est quelque chose de très, très crémeux, très gourmand. On peut éventuellement le faire à la truffe pour les fêtes, Noël. C'est ce qu'on fait, nous, ce qu'on propose. Et c'est vraiment... quelque chose de très très bon.
Et qui est produit donc dans la région ?
À Méharin, c'est au-dessus de Bayonne.
Au-dessus de Bayonne.
C'est entre Bayonne et Saint-Palais. Saint-Palais, c'est la plus grosse ville du secteur là-bas.
Très bien.
C'est un peu vallonné. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans cet endroit-là.
Ouais.
Et notamment des producteurs, des gens qui produisent du lait et qui revendent le lait à des laiteries. Et ce qui était le cas des parents de Virginie, elle a fait des études d'ingénieur sur Toulouse et elle a installé une production fromagère avec ses parents. elle a donné un deuxième souffle à ses parents en fin de carrière.
Voilà, pour donc c'est un fromage de saison, là, c'est le fromage du moment.
Exactement.
Redites-nous le nom de ce fromage.
Il n'a pas de nom.
Il n'a pas de nom.
On l'appelle la brique de Virginie, tout simplement.
Ah, la brique de Virginie. Mais il y a quel qui fabrique ce fromage? C'est son invention.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
Ah oui. Bon. Est-ce qu'on consomme plus de fromage dans ce moment?
On peut le trouver chez Linda Rose.
Ah oui, d'accord. D'accord.
Notre-Dame aux 5 étoiles.
Et oui. Et qui est de la région, bien sûr.
Exactement.
Très attaché au Pays Basque, Hélène Darroze. Merci à vous, Beignat Moiti, pour cette découverte ce matin. À très bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette.
Merci, au revoir, bonne journée.
À bientôt. 5h28 sur Europe 1, on va faire un point complet sur cette météo glaciale avec vous, Laurent Cabrol.
Oh, j'ai un grand bonheur à vous annoncer des températures, je le disais tout à l'heure, absolument sibériennes. Alors j'ai calculé tout de suite, sans plus tarder, le ressenti, parce que c'est réellement ce que nous avons à subir aujourd'hui. Il y a du vent encore. J'ai du moins 17 à Châteaudun, Nancy, Orléans. Déjà à Nancy, Orléans, sous abri, c'est moins 12, vous voyez, c'est quand même pas mal. Et là, ça fera du moins 17. Moins 16 à Strasbourg, en plein vent. Moins 4 à Cher, à Chartres. Moins 12 en banlieue parisienne, Roissy, Pontoise, Épinal, moins 12 aussi. Moins 11 à Orly et Rennes. Moins 10 à Deauville, Dijon, Nantes, Lille. Nous avons du moins 9 à Langres, du moins 7 à Poitiers, du moins 5 à Clermont-Ferrand et à Lyon. Même Lyon commence à avoir des températures négatives. Moins 3 à Cognac, moins 2 à Bordeaux et Marseille. Et puis, non, plus 2. Non, ça y est, ça passe positif. Bordeaux-Marseille, plus 2. Oui, je t'aurais embringué dans mes moins. Et ben non, c'est plus 2 à Marseille. Plus 4 à Biarritz, plus 6 à Toulouse et 10 degrés à Bastia. Voilà pour ces températures qui ne sont pas historiques, mais enfin qui sont quand même, depuis au moins une dizaine d'années, quelque chose que nous n'avons pas connu. Alors le ciel est calme, pas ou peu d'intempéries. Quelques pluies autour de la Garonne, des pluies qui vont jusque dans le département du Tarn. Nous avons des brouillards vers Brive, vers Rodez. Et puis cet après-midi, une vraie perturbation, arrivera le long des côtes atlantiques. Alors elle va toucher la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Charentes, le Bordelais, la Gironde et les Landes. C'est une zone de pluie que nous ciblerons un petit peu mieux tout à l'heure. Pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée. Il s'est dit, oh, il fait froid, je ne vais pas y aller. Bon, voilà.
Bon, surveille ça. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1. Bon réveil. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Tout de suite votre journal, il est 5h30.
Je me suis déjà imaginée dans un lit avec un tube à la place d'un patient ou voir un de mes proches, dans le coma, intubé. Il y a des moments où les angoisses reprennent.
L'inquiétude du personnel soignant, les contaminations flambent au sein même des hôpitaux. Nous irons à Boulogne, près de Paris. L'Allemagne choisit un chemin totalement différent de la France. Prolongation du confinement partiel pendant un mois. Les Français sont ceux qui utilisent le moins le 112 en Europe. Un numéro d'urgence pourtant bien utile, mais qui souffre d'un déficit de communication. Et puis qui dit froid, dit batterie qui ne démarre pas. Les garagistes appellent les conducteurs à bien vérifier leur niveau.
À suivre après le journal, les autres virus qui menacent l'hôpital, et ceux-là sont informatiques. L'hôpital de Dax, victime d'une cyberattaque majeure hier, qui a paralysé son fonctionnement. Nos établissements de santé sont-ils suffisamment protégés? Explication dans 10 minutes avec mon invité Charles Blanc-Rollin. Il est en charge de la sécurité à l'hôpital de Moulins-Yzeure. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On en parle peu, mais ces dernières semaines, les foyers de contamination explosent dans les hôpitaux. Ça concerne de nombreuses villes, Paris, Dieppe, Brest, Arras, Hénin-Beaumont, Périgueux ou La Rochelle. Une situation qu'on n'avait pas vue lors de la première vague.
Victor Dolande s'est rendu à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, en banlieue parisienne. Écoutez son reportage.
Je me suis déjà imaginée dans un lit avec un tube à la place d'un patient ou voir un de mes proches... Dans le coma, intubé, il y a des moments où les angoisses reprennent.
Comme Magali, aide-soignante, ils sont nombreux à penser au virus, même s'ils ne préfèrent pas trop s'étendre sur la question. Dans son bureau, Geneviève Boyer, cadre de santé en réanimation, ajuste en permanence les plannings pour remplacer les soignants positifs au coronavirus. Et ça génère beaucoup de stress au sein des équipes.
Ils reviennent régulièrement vers nous en nous disant « Vous avez trouvé pour demain, vous avez trouvé pour après-demain ». Ça les inquiète beaucoup, la fatigue faisant.
Car un soignant en moins, c'est forcément du travail en plus pour les autres. Les contaminations se multiplient, mais les explications manquent, selon Antoine Villard-Baron, chef du service réanimation.
Est-ce que ce sont contaminés à l'hôpital ? Est-ce qu'ils se contaminent pendant les périodes un peu de détente qui sont obligatoires, ne serait-ce que les pauses ou les déjeuners ? Ou est-ce qu'il y a une contamination dans la sphère privée ? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à définir.
Un an après le début de la crise, la fatigue se lit sur tous les visages et la peur de la maladie n'est jamais bien loin. Ce virus qui n'épargne personne, pas même les soignants. La semaine dernière, dans ce service, une aide-soignante a été hospitalisée en réanimation.
Victor Delande, côté chiffres, le nombre d'hospitalisations ainsi que les entrées en réanimation sont en légère baisse. Près de 2,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection du vaccin. Hier, après le Conseil de défense, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré qu'il existait un chemin pour éviter le reconfinement.
Un optimisme bien loin d'être partagé par Angela Merkel. La chancelière annonce quasiment un mois de plus en confinement partiel. Pilule difficile à avaler pour les Allemands.
Oui, malgré une baisse spectaculaire des cas en quelques semaines, les mesures en vigueur depuis la mi-décembre sont prolongées jusqu'au 7 mars face à la crainte des variants. Deux exceptions tout de même, les coiffeurs, ils pourront rouvrir le 1er mars. Et puis les établissements scolaires qui eux rouvriront au cas par cas à partir de la semaine prochaine. Hélène Kohl, vous êtes en Allemagne pour Europe 1. Pour les familles, l'espoir renaît.
Oui, enfin une perspective, car après deux mois sans école, beaucoup ont jeté l'éponge, comme Tina qui a préféré emmener ses enfants faire de la luge hier.
La plateforme d'école en ligne est inaccessible depuis ce matin, donc il n'y a pas cours.
Officiellement, les outils numériques permettent de suivre un enseignement pendant 6 à 8 heures par jour. La réalité est bien différente. Chez Sarah, 16 ans, il n'y a qu'un seul ordinateur pour toute la famille.
Je fais mes devoirs la nuit, à partir de 23h ou minuit, quand tout le monde dort.
Selon une étude, les trois quarts des élèves allemands n'ont aucun contact vidéo avec leurs enseignants. Alors comme Marie, beaucoup de parents qui doivent télétravailler en même temps se sentent abandonnés.
Bien sûr que je pourrais passer 12 heures assise avec mon fils à son bureau et l'école à la maison, ce serait fantastique. Mais ce n'est pas possible, j'ai un emploi. L'aisance avec laquelle il a été décidé que l'enseignement et tout ce que cela implique serait pris en charge par les parents est très choquante à mes yeux.
Pour faire face, le gouvernement allemand leur a accordé 20 jours de congés supplémentaires et une allocation de 150 euros par enfant.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1.
Il est 5h34, 13 départements du quart nord-est sont pour l'instant en vigilance orange à cause du froid, de la neige ou du verglas. Laurent Cabrol nous le disait, encore des températures absolument glaciales ce matin.
Oui, il disait même sibérienne, ça met bien sûr nos organismes à rude épreuve, mais aussi les batteries de nos voitures, comme le constatent les garagistes ces derniers jours à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Le reportage de Lionel Gougelot.
C'est une vieille voiture, une vieille batterie, avec le froid, elle n'a pas tenu le choc. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé de batterie et je pense que ça doit être celle, elle a rendu l'âme.
Et Malika n'est pas la seule automobiliste à être venue changer sa batterie à plat dans ce centre Norauto de Villeneuve-d'Ascq. À l'atelier, témoigne Khalid, c'est presque un travail à la chaîne.
Le contexte actuel avec le Covid, les personnes roulent moins avec leur véhicule. Donc du fait de laisser le véhicule sur place et de ne pas rouler, déjà ça baisse l'intensité de la batterie. Et avec les grosses variations de température, ça donne à quoi la batterie, ça les endommage. Et donc on doit changer énormément de batteries. Hier, on a dû fermer un peu plus tard que prévu parce qu'il y avait beaucoup de clients qui sont venus pour des batteries et pour ne pas les laisser en rade, on a fait les batteries.
Un froid polaire sans pitié pour les automobiles à l'entretien défaillant. D'où ce petit conseil supplémentaire d'Anthony Ferromillon, responsable du marché atelier. Pensez à bien vérifier régulièrement tous les niveaux.
C'est important de le faire parce que le moteur il est quand même soumis à certaines contraintes en hiver et il faut s'assurer que le niveau d'huile soit bon pour éviter justement de sursolliciter le moteur. Et il y a un liquide qu'il va falloir faire attention et où il faut être vigilant si on doit faire la pointe, c'est le liquide de refroidissement. Le liquide contient un antigel et il ne faut pas s'amuser à compléter avec de l'eau parce que comme quand on a des températures qui sont négatives, malheureusement on peut geler le liquide de refroidissement et ça, ça a des conséquences sur le véhicule.
Et pour les pneumatiques, le choix le plus judicieux reste celui des pneus 4 saisons. Là aussi, la demande est en augmentation. À Villeneuve-d'Ascq, Lionel Gougelot, Europe 1.
Vous avez bien noté, attention donc à bien vérifier les niveaux et surtout le liquide de refroidissement.
Est-ce que vous connaissez le 112 et est-ce que vous l'utilisez ? C'est aujourd'hui la journée européenne consacrée à ce numéro d'urgence.
Et oui, il fonctionne même sans réseau, téléphone verrouillé partout en Europe et permet d'être dirigé vers la police, les pompiers ou le SAMU. Pourtant, Jean-Sébastien Soldaini, ce numéro d'appel d'urgence européen est très peu utilisé chez nous.
En France, le 112, c'est tout sauf un réflexe. En cas d'urgence, ce sont les bons vieux numéros qui viennent immédiatement à l'esprit.
Les pompiers, la police, tout ça, c'est le numéro qu'on voit dans la rue. Les camionnettes, tout ça, on les voit. Et aussi, ils sont plus connus à l'école, on nous sensibilise plus à ces numéros-là qu'au 112 ou d'autres numéros comme ça.
J'ai quand même pensé au 18 parce que c'est vrai que quand on était petit, c'était le numéro qu'on nous apprenait en fait.
Le 112, ça vous dit rien ?
Non.
je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication.
Pas de communication, déficit d'éducation sur ce numéro. Résultat, les Français sont ceux qui utilisent le moins le 112 en Europe. 9% seulement des appels d'urgence l'année passée. Et Benoît Vivier, responsable des affaires publiques pour l'Association européenne du numéro d'urgence, estime que c'est probablement trompeur.
Il y a beaucoup de touristes qui viennent en France et c'est souvent les touristes qui ont le réflexe d'utiliser le 112 parce que c'est le numéro d'urgence qui est commun partout en Europe. Donc si on regardait vraiment seulement les communications qui sont faites par des Français, il serait bien inférieur à ces 9%.
Les pays scandinaves sont comme souvent les bons élèves. 100% des appels d'urgence passent par le 112. La raison est simple, ils ont banni leurs numéros nationaux au profit du seul numéro d'appel européen.
Ils auront la parole ce soir sur France 2. Débat très attendu entre d'un côté Gérald Darmanin et de l'autre Marine Le Pen.
Et oui, le ministre de l'Intérieur face à la présidente du RN. Il devrait parler séparatisme, immigration ou encore insécurité comme un galop d'essai avant la présidentielle de 2022. Aurélie Herbemont.
Gérald Darmanin et Marine Le Pen auront un point commun ce soir. Tous deux sont convaincus que les questions régaliennes seront au cœur de la campagne présidentielle. Alors chacun fourbit ses armes et aucun des deux n'a droit à l'erreur. L'enjeu pour Gérald Darmanin, montrer que les solutions d'extrême droite relèvent de l'escroquerie intellectuelle et que les réponses du chef de l'État sont à la hauteur. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'apparaître crédible et posée, histoire de faire oublier son débat raté face à Emmanuel Macron en 2017. On est sûr de nous sur les thématiques immigration et islamisme, se vante un proche de la candidate. Et si depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron joue à fond la carte du match retour, aujourd'hui un ministre s'alarme. Il n'y a pas qu'elle dans la vie, il ne faut pas l'installer en opposante numéro 1. À l'heure où des sondages montrent qu'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle n'est pas inconcevable, l'enjeu n'est effectivement plus tout à fait le même.
Marine Le Pen qui a dénoncé hier un procès politique. Elle comparaissait devant la justice avec Gilbert Collard pour avoir posté sur Internet des photos d'exaction de Daesh en 2015. Le parquet de Nanterre a requis 5000 euros d'amende, décision en mai.
Le football et hier soir le PSG s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Victoire 1-0 à Caen.
Oui, mais grosse inquiétude pour Neymar qui a quitté le terrain après un choc et souffre d'un adducteur. On connaîtra dans la journée la gravité de cette blessure, mais ça tombe mal à 5 jours du match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions.
De son côté, Nantes a été éliminé par Lens, 4-2, et son entraîneur Raymond Domenech est déjà hors-jeu.
Et oui, arrivé fin décembre, il est limogé après seulement 7 matchs de championnat et sans aucune victoire. Nouvelle péripétie pour un club où la crise couve depuis des mois. Simon Rubin.
À Nantes, les supporters ont un nom pour désigner les mésaventures de leur club, le Kita Circus, comprendre le grand cirque du président Valdemar Kita. D'ailleurs, en décembre dernier, les supporters de l'équipe avaient accueilli fraîchement Raymond Domenech pour son premier entraînement.
Le Kita Circus, c'est également son nouveau spectacle de marionnettes.
Il faut imaginer les supporters collés aux grilles du centre d'entraînement, les joueurs ulcérés d'être ainsi moqués et le président Kita encadré de gardes du corps pour sortir. Voilà qui en dit long sur le ras-le-bol des supporters. Franck est un amoureux du FC Nantes depuis 40 ans. Il reproche à Valdemar Kita d'avoir dénaturé le club.
Le FC Nantes, Kita a voulu le transformer en FC Kita, c'est-à-dire plus d'histoire, le glorieux passé, il fallait en faire table rase, échanger la méthode. Il était censé faire rentrer le club dans une espèce de chimère de foot business sans queue ni tête, sans projet sportif. Voilà, mais là, il n'y a plus rien.
Et pour couronner le tout, le club est déstabilisé par les changements d'entraîneur. Cette saison, le FC Nantes a connu plus de coachs qu'il n'a gagné de matchs en Ligue 1. 3 victoires contre 4 entraîneurs.
Et il reste 2 matchs à jouer ce soir, Sochaux-Saint-Etienne et Angers-Rennes.
On y reviendra plus en détail dans la page des sports de Jérôme Lacroix tout à l'heure à 6h10. C'était Hélène Zellani pour le journal. Il est 6h20. Et on retrouve Thierry Léger pour les courses et les pronostics du Quintet.
C'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce Quintet. Parmi les 16 partantes, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Décoloration, le numéro 13, irréprochable depuis le début de ce meeting d'hiver de Vincennes. 3 victoires et une 3e place en 4 sorties et déjà 2 quintets similaires à son actif. On lui opposera les numéros 4, Élite de Giel, et 2, Effigie Royale, classés respectivement 2e et 3e, derrière Décoloration, ma favorite, dans un quintet le 11 janvier à Vincennes. Ensuite, je vous recommande Déesse Noire, le numéro 6, emmurée vivante à la sortie du tournant final, lors de sa dernière sortie à Vincennes, alors qu'elle avait visiblement les ressources nécessaires pour faire à coup sûr l'arrivée, mais aussi Wild Love, le numéro 3, une Suédoise dont les débuts en France, le 31 janvier à Vincennes, ne sont vraiment pas passés inaperçus. Enfin les numéros 14, Conchitana Genilou, 15, Crescendis et 5, Belle Émotion, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 13, 4, 2, 6, 3, 14, 15 et 5.
Thierry Léger, merci à vous et tous vos pronostics sont à retrouver sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Nos hôpitaux sont-ils menacés par des pirates informatiques? Cela semble être un nouveau filon avec au cœur d'un nouveau business, la revente de nos données médicales. On en parle ce matin avec mon premier invité. Bonjour Charles Blanc-Rollin.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le responsable de la sécurité informatique du centre hospitalier de Moulins-Yzeure. L'hôpital de Dax a été victime d'une cyberattaque qui est qualifiée de majeure. Ça s'est passé hier et c'est tout le fonctionnement de l'hôpital qui a été perturbé. On parle d'abord d'un rançongiciel. Est-ce qu'on peut expliquer en deux mots quel est ce type d'attaque et comment elle se passe ?
Un rançongiciel, c'est un logiciel malveillant qui va prendre en otage les données qui sont sur le système d'information de santé de l'établissement. Il va chiffrer l'ensemble des données et derrière, il va proposer de récupérer ces données en payant une rançon pour obtenir la clé de déchiffrement.
C'est aussi un type d'attaque qui frappe parfois les entreprises. On entend plus rarement que cela touche les hôpitaux. Vous avez déjà été confronté à ce type d'intrusion ?
Oui, dans le passé, c'est des attaques que oui, j'ai déjà vécues.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que ça a des conséquences sur tout l'hôpital parce que tout est connecté aujourd'hui.
De plus en plus, oui. C'est vrai qu'il y a, encore une dizaine, quinzaine d'années, c'était principalement la partie administrative qui était informatisée. Aujourd'hui, le cœur de métier est informatisé, les dispositifs médicaux sont connectés et c'est vrai que du coup, on a un impact de plus en plus important et comme on a pu le voir dans le tweet du CH de Dax, eux, ils ont eu aussi la partie téléphonie qui a été impactée.
On dit que les blocs opératoires, y compris, sont menacés lorsque l'informatique ne suit plus.
Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver parce que dans un bloc opératoire, on va retrouver des dispositifs médicaux qui sont connectés, qui s'appuient sur des systèmes d'exploitation Windows dans certains cas, et qui peuvent être eux aussi touchés par des logiciels malveillants si le réseau n'est pas suffisamment isolé, pas suffisamment étanche, et que ce logiciel malveillant a pu se propager sur les dispositifs médicaux, par exemple.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, lorsque tout est bloqué, que ce logiciel réclame une rançon ? Est-ce qu'il faut payer pour sauver l'hôpital, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Alors, il y a d'autres solutions. La première, c'est l'anticipation. Hein. Ça va être d'avoir des sauvegardes, de préférence des sauvegardes hors ligne, donc qui ne peuvent pas être atteintes et impactées par une attaque via le réseau. Après, ça va être d'autres actions techniques, hein, de filtrer un maximum ces réseaux, de protéger ces machines, d'éviter qu'elles soient connectées et exposées directement sur Internet. Et puis après, il va y avoir aussi toute la partie sensibilisation des utilisateurs qui est très importante.
Parce que ça arrive toujours par un email ?
Ça arrive très souvent par un email. Ça peut arriver aussi par le biais de machines qui sont directement exposées sur Internet.
Ce scénario, c'est celui que vous redoutez le plus dans votre activité. Donc, je rappelle que vous dirigez la sécurité informatique de l'hôpital de Moulins.
Ça fait partie des scénarios à craindre, oui. Parce qu'on voit que c'est quelque chose d'assez courant. Hein. De plus en plus d'établissements de santé sont attaqués, au même titre que d'autres entreprises. Hein. On n'est pas le seul secteur à être victime de ce genre d'attaque. Hein. On a vu encore très récemment que même des très grosses entreprises pouvaient être victimes d'intrusions dans les systèmes, notamment Microsoft, Amazon, des grosses sociétés du domaine de la sécurité, le département de la défense des États-Unis, l'OTAN, le Parlement européen. Donc, restons modestes.
Que sait-on de ces pirates ? Ils agissent en France ou depuis l'étranger ?
Alors, c'est difficile à dire. Bien souvent, on voit des groupes étrangers. Alors, l'attribution est très, très difficile dans ce domaine, puisque les attaquants essayent de dissimuler un maximum leurs traces et de se faire passer pour des gens d'un autre pays, que ce soit par le biais de l'utilisation de serveurs qui sont placés dans des pays qui ne sont pas les leurs, ou par l'écriture du code malveillant qu'ils vont réaliser. Ils vont mettre, par exemple, des commentaires en cyrillique pour se faire passer potentiellement pour des gens qui seraient voilà, des pays de l'Est, alors que ce n'est pas forcément le cas.
Et qu'est-ce qu'ils cherchent au final? Alors, on comprend l'argent avec ces rançons et au-delà, ces données de santé qui sont stockées dans les ordinateurs des hôpitaux, elles ont une valeur?
Oui, ces données, elles ont une valeur. C'est une certitude. Alors, en France, ça se voit assez peu, la revente de données de santé sur des sites du dark web, par exemple, on le voit assez peu souvent. Par contre, aux États-Unis, ça se pratique assez régulièrement.
Qui achète et à quel prix ces données, ces dossiers médicaux?
Alors, ça peut être des tarifs très élevés. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai vu, oui, des grosses ventes de bases de données qui avaient été dérobées à des établissements de santé américains qui étaient à presque 500 000 euros la vente. Donc ça, ça peut être des choses qui peuvent intéresser potentiellement des assureurs, des banques.
On est assez protégé en France dans nos établissements publics comme les hôpitaux?
On est en pleine progression. Je pense qu'on a encore des efforts à faire, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Hein. Mais c'est vrai qu'on a accumulé un peu de retard dans le secteur de la santé.
On met suffisamment de moyens pour ça?
À mon sens, non. Je pense que ça serait bien qu'on ait plus de moyens pour sécuriser nos systèmes.
Et on le comprend, que les implications sont très grandes dans un hôpital lorsque, comme à Dax, c'est tout le fonctionnement de l'hôpital, et y compris des salles d'opération, qui est perturbé. Merci pour votre éclairage ce matin, Charles Blanc-Rollin. Je rappelle que vous êtes responsable de la sécurité informatique au centre hospitalier de Moulins-Yzeure. Très bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1.
5h48 sur Europe 1. C'est l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France à travers nos régions avec une nouvelle initiative que vous avez trouvée. Jérôme Lacroix, où est-ce qu'on va?
Le Doubs, Besançon et Sébastien, vous le savez, nous vivons une période un petit peu folle. Alors, je vous emmène ce matin au musée pour un cours de sport. Ben oui, il n'y a qu'un pas. Ah ouais. Des tableaux aux abdos, du Caravage au gainage. Deux univers réunis, c'est insolite, par cette folle pandémie de Covid.
Au musée, donc. A tout de suite sur Europe 1, 5h49.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h10 sur Europe 1. Amazon embauche, le géant du commerce en ligne annonce la création de 3000 postes en CDI cette année. Les détails avec mon invité à 6h40, le président d'Amazon Logistique France. La parole se libère à Sciences Po. Nombreux témoignages d'étudiantes sur les réseaux sociaux sous ce hashtag Sciences Sport. Elles se disent victimes ou témoins de violences sexuelles. Les tests salivaires, premier test aujourd'hui dans une école parisienne, alors qu'on connaîtra les recommandations de la Haute Autorité de Santé. L'expérimentation devrait s'étendre après les vacances scolaires.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
C'est l'heure de La France Bouge avec vous Jérôme Lacroix. Et ce matin, la tête et les jambes.
Allez, réveil tonique ce matin avec Sophie.
Allez, c'est la dernière partie pour les abdos. Reste très concentré. Inspirez, jambes droites.
Ça résonne, hein.
Alors, séance matinale de Pilates. Je connais votre cynisme, Sébastien. Sophie ne dispense pas son cours depuis ses toilettes. Non, l'écho que vous entendez, c'est fait exprès. C'est parce qu'elle est au musée. C'est là que Sophie Fleutelot, professeure de Pilates, a installé depuis quelques semaines son tapis au musée des Beaux-Arts de Besançon. Et elle diffuse ses cours en vidéo, deux séances chaque samedi, à l'ombre des toiles de Gustave Courbet ou du taureau d'Avrigné. Des cours diffusés en direct sur Facebook, sur la page du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon.
Bon, d'accord, joli, joli décor. Mais pourquoi cette idée?
Alors en fait, c'est une convergence d'intérêts. Sophie, elle est la patronne d'une salle de fitness en ville, fermée bien sûr en raison de la pandémie. Les musées, fermés aussi. Alors, les séances de Pilates permettent à Sophie de garder le lien avec les pratiquants. Dans ce cadre majestueux, fascinant, expliquait-elle récemment à l'Est républicain. Fascinant et surtout totalement disponible pour installer son tapis de Pilates. Mais ce n'est pas tout. Après l'effort, après la première séance de 45 minutes, Sophie s'efface temporairement pour faire place à l'histoire de l'art.
Terminé pour cette séance de contrôle Pilates. Et donc je vous laisse entre les mains d'Héloïse pour les explications des œuvres qu'il y a juste derrière moi.
Avec le musée, on peut voyager et c'est une invitation à voyager en Espagne que nous vous proposons ce matin.
Une professionnelle du musée qui entre en scène pour une séance de décryptage des œuvres aperçues derrière la prof de sport pendant qu'elle faisait sa séance. Ici en l'occurrence, un tableau d'un peintre espagnol. C'est un concept pour le moins original, vous me l'accorderez, qui déconfine et salle de sport
et musées. Et l'opération plaît au public, selon le Musée des Beaux-Arts, qui envisage d'organiser à l'issue de la pandémie de telles séances sportivo-culturelles ou culturo-sportives, je ne sais pas, avec des participants en chair et en os.
Ben voilà, voilà une bonne idée qui peut faire des petits peut-être ailleurs en France, dans d'autres musées, pourquoi pas. Merci à vous Jérôme Lacroix pour La France Bouge. Et nous explorons les réseaux sociaux avec vous, Paul Lassalle.
Oui, c'est un nouveau réseau social dont on parle de plus en plus en France. Un réseau social très, très sélect qui porte plutôt bien son nom, puisqu'il s'appelle Clubhouse. Alors, le principe est simple. L'idée, c'est d'envoyer comme de petites notes vocales aux gens eux aussi présents sur cette application. Pas de post, pas de message, pas de photo, pas de vidéo, pas de hashtag. Uniquement de l'audio que vous partagez avec les gens que vous choisissez. Vous pouvez vous balader d'une salle de discussion virtuelle à l'autre, sauf que vous ne croisez pas forcément que des gens que vous connaissez. Mieux encore, vous pourrez peut-être échanger Jérôme, Sébastien, avec le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, l'animatrice américaine Oprah Winfrey, ou le milliardaire Elon Musk, des gens a priori inatteignables dans la vie de tous les jours. Mais alors, vous allez me dire, c'est trop beau pour être vrai. Eh bien, bien sûr, puisque pour l'instant, ce réseau social n'est pas à la portée de tous. Non, 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 non. Pour s'inscrire à Clubhouse, encore faut-il que vous y soyez invité, puisque l'accès, pour l'instant, voilà, il n'est possible que par le parrainage d'un utilisateur déjà inscrit. C'est l'une aussi des raisons du buzz qui entoure ces jours-ci en France. Un réseau social un peu comme un dîner VIP. Ouais. Ça ressemble à l'esprit des débuts de Facebook ou Twitter. On est tous un peu comme des gamins. On discute vraiment avec les gens. On se laisse parler. Tout le monde s'écoute. Ça ressemble un peu à de la radio libre, explique Jonathan, qui est un tout nouvel utilisateur de Clubhouse. Alors, en France, ça commence doucement à se faire connaître. Aux États-Unis, c'est un énorme carton, alors que l'application n'a été lancée qu'en mars 2020, donc il y a tout juste un an. Et c'est surtout grâce aux stars qui l'utilisent que ça a pris cette ampleur, hein, celle que je vous ai citée.
Qui, elles, ont été invitées, évidemment, tout de suite.
Évidemment, il y a aussi, par exemple, le rappeur...
Je passe un coup de fil à Kenny Mark Zuckerberg, il va s'occuper de
bah, vous me donnerez son numéro, compte. Ça peut voilà. m'intéresser. Et il y a un autre pays où cette appli était bien implantée, c'est la Chine. Mais pour d'autres raisons, ces forums de discussion étaient utilisés par des opposants au pouvoir, un moyen plus discret que les autres réseaux sociaux. Pour communiquer, je parle au passé parce que le gouvernement chinois a décidé il y a 2 jours de fermer l'application dans le pays.
D'accord. Et donc on parle donc en audio avec, avec les utilisateurs comme ça, comme si on était au téléphone,
c'est
comme en visioconférence
ça. On s'envoie des petites notes vocales.
On envoie des petites notes vocales.
Ça, personne ne se coupe, direct. Okay. Chacun son tour. Voilà.
On s'enregistre, on envoie les petits... Bon, ok. Bon, il faut qu'on soit invité. On va,
ben voilà, on va
faire la demande.
On va faire en sorte, oui.
Très bien. Merci Paul Lassen. 6h05. Vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat à 14h. Christophe Ondelat qui continue dans ce deuxième épisode sa série autour du tueur Nordal Lelandais. L'avocat Alain Jakubowicz raconte son métier à travers la défense de Nordal Lelandais. Deuxième épisode aujourd'hui dans Ondelat raconte, à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et on écoute Le Monde Changé sur Europe 1. On regarde notre planète avec vous, Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et on s'intéresse à une ville ce matin, une ville dans le Grand Nord, hein, qui vient pourtant de lancer sa candidature aux Jeux Olympiques d'été de 2032.
Oui, la ville de Sala, située en Laponie, réputée comme étant l'endroit le plus froid de Finlande, a publié une vidéo annonçant sa candidature au JO d'été 2032. Candidature ironique et supra-décalée, puisque cette commune de 3400 habitants passe la moitié de l'année sous la neige. Dans cette vidéo, on voit des citoyens de Sala déguisés en athlètes, légèrement vêtus, pratiquer des disciplines des JO d'été dans un fond de blizzard, de lacs givrés et d'étendues de neige à perte de vue. Le tournage est à moitié une blague. Cette fausse candidature vise en réalité à alarmer le public sur les risques climatiques encourus par des villes et villages comme Sala, qui fonctionnent dans des écosystèmes hivernaux.
Fanny, pourquoi est-ce que le maire de Sala a choisi cette date de 2032 ?
Eh bien, pour tirer la sonnette d'alarme sur l'accélération du réchauffement et pour nous avertir que nous serons contemporains de ces grands bouleversements. En effet, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévient que les températures globales auront déjà augmenté d'1,5 degré aux alentours de 2030. L'objectif de l'accord de Paris est donc déjà hors d'atteinte. Derrière la publication de cette fausse candidature au JO, Sala utilise donc l'échéance 2032 pour dire que, vu l'inertie sur le réchauffement, d'ici là, toute la glace aura fondu pour y accueillir les Jeux d'été.
Voilà, donc on prend l'idée de cette communication décalée, joli coup de com. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'une ville ou qu'un gouvernement fait preuve d'originalité pour mettre en avant cette urgence climatique.
Oui, déjà en 2009, le gouvernement des Maldives avait tenu son conseil des ministres sous l'eau, avec les membres du gouvernement équipés de masques et de bouteilles de plongée pour dénoncer l'inaction face à la montée des eaux qui menace les archipels du Pacifique. En 2019, une marche funèbre a été organisée en Suisse pour pleurer le glacier Pisol fondu par le réchauffement planétaire. Quant à la Laponie, les habitants remarquent déjà des hivers de plus en plus courts et des lacs habituellement glacés qui commencent à fondre. L'équilibre actuel des écosystèmes froids est déstabilisé, avec des conséquences sur l'accès à la nourriture, notamment pour les rennes. Et avec eux, c'est la population des Samis, ce peuple de 80 000 personnes dont la culture repose sur l'élevage de rennes qui est aujourd'hui menacée. Car finalement, c'est bien ça l'enjeu. Le réchauffement climatique a des conséquences en cascade, avec l'activité humaine comme point de départ et systématiquement la vie humaine comme dommage collatéral.
Oui, chaque degré a des réactions en chaîne, comme ça. Merci Fanny Agostini, notre planète chaque matin avec vous.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil. On est ensemble jusqu'à 7h. Il est presque 6h. Nous sommes le jeudi 11 février. On va retrouver Laurent Cabrol dans quelques secondes. Prudence, hein, encore ce matin, ça glisse sur les routes, sur les trottoirs, température extrêmement basse. Un moment juste pour vous donner le programme du jour avec une bonne nouvelle dans ce contexte de morosité économique en cette semaine où Europe 1 se mobilise pour les jeunes et notamment pour l'emploi. Voici de nouvelles offres. 3000 embauches en CDI annoncées chez Amazon, le géant de la vente en ligne qui a vu son activité exploser à la faveur des confinements. Le géant construit de nouveaux entrepôts et le président d'Amazon Logistique, Ronan Bollet, a choisi Europe 1 pour venir détailler les profils qu'il recherche. Il est mon invité tout à l'heure à 6h40. Laurent Cabrol, c'est à vous parce qu'il fait extrêmement froid ce matin.
Extrêmement froid, un froid sibérien, on reprend la formule, c'est une formule que j'utilisais déjà hier, eh bien c'est ça. Je vous donnais tout à l'heure des températures en plein vent, du moins 17 à Orléans, du moins 16 à Strasbourg, du moins 12 à Pontoise, du moins 10 à Douville, en banlieue parisienne, etc. Je vais vous donner maintenant les températures sous-abri, on va appeler ça la météo des portes cochères, vous savez, là à l'abri du vent, hein. Eh bien il fait quand même moins 13 à Langres, moins 12 à Épinal, moins 10 à Nancy, moins 9 en banlieue parisienne, moins 8 à Paris, intramuros, moins 5 à Caen, Rennes, Nantes, Nevers, moins 4 à Poitiers, moins 1 à Limoges, 0 à Lyon, 4 à Toulouse, 5 à Marseille, 7 à Nice et 8 à Ajaccio. Ce sont donc des températures à l'abri du vent, celles que vous ressentez avant de sortir de la maison, sur le parvis, c'est-à-dire sur les pas de porte. Mais vous voyez que quand même, elles sont largement négatives et ce sont vraiment des températures d'un grand froid avec, je n'insisterai pas sur le temps, nous avons une perturbation qui arrive par l'Atlantique, elle n'est pas encore là, bon, on en parlera tout à l'heure, et elle va arriver dans l'après-midi. Et puis, nous avons quelques brouillards, mais enfin, sans grande importance. Voilà.
Voilà, prudence si vous sortez, surtout couvrez-vous. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe 1, Sébastien Krebs.